que quelqu'un veut dire quelque chose?
Oui, mais dans les anecdotes que tu as citées là, moi, il y en a une hyper brève, mais qui était assez chouette de Jean-Charles Benacchio qui nous racontait comment ils avaient élevé des poules. De famille de charbonniers, du coup, où ils avaient élevé des poules. Enfin, ils avaient des poules sur place. Et puis, ouais. Un jour, le renard a mangé les poules. Et puis, ils ont mangé le renard. Elle est brève, mais efficace.
Et alors, est-ce que c'est bon, le renard, il t'a dit?
Non, c'était pas terrible, il t'a dit.
Alors, j'ai préparé un exposé de 4 heures sur l'histoire des coulmes.
Ça commence maintenant.
Mais je vais essayer de vous le faire en un quart d'heure. Ouais, sur les coulmes et les charbonniers. D'abord, coulme, ça vient du latin culmen, qui veut dire culminer. Mais en fait, assez vite, c'est devenu un terme générique qui désignait une série de buts. Et les coulmes, pour ceux qui connaissent, voilà, ça fait monter, descendre, donc c'est bien des coulmes. Les charbonniers, ils ont été présents dans les forêts du Vercors pendant des centaines, voire des milliers d'années. À la grotte de Choranche, il y a des archéologues qui ont fait des prélèvements dans le sol et qui ont retrouvé des traces de charbon dont les plus anciennes datent de 6000 ans. La forêt des Coulmes, elle a été beaucoup exploitée, surtout au Moyen-Âge, et puis jusqu'aux années 60 pour la fabrication du charbon. Pendant longtemps, la montagne, elle appartenait aux seigneurs de Saint-André et de Sassenage. Ils faisaient charbonner le bois par des gens qu'ils embauchaient à la belle saison. Et ce charbon, ils le vendaient dans les villes et puis aux ateliers métallurgiques qu'on appelait les artifices, qui fonctionnaient autour d'un moulin à eau. Au Moyen-Âge, il y avait des charbonniers nomades dans tout le Vercors. Et puis il n'y avait pas que des charbonniers, il y avait tout un monde qu'on appelait les boisilleurs, qui était assez suspect aux yeux des sédentaires. Donc c'était les chasseurs, les charbonniers, les forgerons, les chercheurs de miel ou de cire, les faiseurs de cendres, parce qu'il y avait tout un commerce autour de la cendre qu'on utilisait pour fabriquer du savon ou du verre. Puis il y avait les arracheurs d'écorce qui servaient à tanner les cuirs ou à tresser des cordes. Et puis toute une foule d'artisans qui venaient se fournir en bois. Mais il y avait aussi tous les habitants, les paysans des communautés voisines qui fréquentaient la forêt. Alors là, ils faisaient paître leurs bêtes parce qu'ils manquaient de pâturage. Évidemment, ils faisaient leur bois de chauffage, ils prenaient du bois pour la construction, ils chassaient, ils braconnaient, ils trouvaient là l'engrais pour le jardin, ils ramassaient les feuilles, parce qu'on dit que la feuille est à la forêt ce que l'herbe est à la prairie. C'est-à-dire que la feuille, elle servait au fourrage des bêtes l'hiver, quand on n'avait pas de foin, et à la litière des bêtes aussi. Mais, comme on l'a dit, elle servait aussi à la literie des hommes, au matelas. Et donc, ils allaient aussi chercher dans la forêt du miel, des baies, les simples, les plantes médicinales et les champignons. Et puis, évidemment, ils faisaient du charbon de bois, dont ils laissaient une partie au seigneur. J'étais bien obligée. Donc, tous ces paysans, ils étaient vraiment dépendants de la forêt. Et ils l'ont façonnée aussi. Ils la considéraient en quelque sorte comme une annexe de la ferme. Et d'ailleurs, ils cultivaient dans la forêt. Alors, pour cultiver dans la forêt, ils pratiquaient l'essartage. L'essartage, c'est couper une étendue de bois, étaler ce bois-là au sol, mettre le feu et sur la terre fertilisée par les cendres, faire pousser des céréales pendant 3 ou 4 saisons seulement parce que le sol s'épuisait assez vite. Donc ça, c'était une agriculture nomade qui était le plus souvent pratiquée clandestinement parce qu'ils n'avaient pas du tout le droit de faire ça. Dans le Vercors, il y a beaucoup de zones forestières qui sont difficilement accessibles et débarder le bois, c'est vraiment compliqué. Ça explique qu'il y a toujours eu plus de charbonnage que de bûcheronnage dans le Vercors, le charbon étant plus facile à transporter. Et puis, au XVIIe, il y a une forte poussée démographique. Et donc, il n'y avait plus assez de place pour tout le monde dans les petits villages, il n'y avait pas assez de terre pour tous les enfants dans les familles, donc ça a poussé à l'éclatement des communautés villageoises. Donc les plus pauvres ont été contraints à l'exil, parfois dans des endroits vraiment reculés. Et ça a donné tout un petit peuple sans terre, nomades et saisonniers, avec aussi des vagabonds, des mendiants et des familles qui ont construit leur abri en forêt après avoir défriché. Donc il y a des maisons qui ont poussé dans des clairières comme ça dans la forêt, et on suppose que c'est à cette période-là que la forêt des Coulmes, elle a été colonisée pour que les gens y vivent en permanence, hiver comme été. Le 17e, c'était aussi le moment de l'essor de la métallurgie. Il y avait la fonderie royale de Saint-Gervais qui consommait beaucoup, beaucoup de charbon. Et pendant de nombreuses années, la forêt des Coulmes et des Écouges, elle a vraiment vécu au rythme des grands centres métallurgiques de la vallée, notamment Saint-Gervais. Et donc, on peut imaginer, et on le sait, que depuis le Moyen-Âge, la forêt, ça a vraiment toujours été un enjeu central dans les rapports de force entre les différents groupes présents sur le territoire. Il y avait les moines chartreux, les seigneurs, les habitants, les responsables de fonderies, et puis après, les gouvernements successifs de la France. Les habitants, ils considéraient que la forêt et les pâturages alentours, ça appartenait à tout le monde. Ils en avaient vraiment besoin pour vivre. Ils n'avaient pas l'impression de voler en s'en servant, mais les propriétaires et les administrations, ils n'entendaient pas de cette oreille. Ça fait que ça a été des constantes négociations, tensions, fraudes, révoltes. Et qu'au 19e, quand il y a eu le code forestier qui a été instauré par l'État, et puis des agents forestiers, les gardes forestiers qui sont arrivés pour essayer de réglementer tout ça, eh ben, ils ont vraiment été considérés comme des ennemis par les paysans. Et d'ailleurs, il y a un cialet, je crois, à Herbouilly, on a retrouvé le squelette d'un garde forestier qui s'est sans doute fait éliminer. Et donc, il y avait des paysans qui venaient faire des choses la nuit dans la forêt pour ne pas se faire prendre, notamment prendre du bois de chauffage. Et ce bois-là, on l'appelait le bois de lune, parce qu'on venait le prendre à la lune. Après, en 1867, la fonderie, elle a fermé. En 1870, on a commencé à construire des routes. Puis c'était la grosse révolution industrielle. On construisait des lignes de chemin de fer. Et la forêt, elle était un peu mal en point, à force d'être exploitée pour la métallurgie et puis par les paysans. Le prix du bois, il a chuté, les salaires des forestiers aussi. Et ça a été vraiment une crise économique qui a porté un coup mortel au système de la pluriactivité rurale. Donc voilà, je disais tout à l'heure, il y a des paysans charbonniers. On ne faisait pas un seul métier. En général, on se débrouillait à faire tout ce qu'on pouvait. Et donc ça a causé un exode vers les villes et les usines. Et les Coulmes, à cette époque-là, elles se sont vidées. Il y a eu un début de renouveau de la population, avec notamment des Italiens de Bergame, pour M. Gauthier, qui était exploitant à la Balme. Les exploitants, ils allaient chercher eux-mêmes les ouvriers en Italie. Et puis les ouvriers, ben d'abord, les premiers temps, ils venaient à pied par les Alpes. Et après, il y a eu un train jusqu'à Modane. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas eu que des Italiens. Il y a eu aussi après des Espagnols et des Portugais. On disait, le charbonnier, c'est comme la feuille. Il vient au printemps et il disparaît à l'automne. Parce qu'ils arrivaient dès que la neige était fondue et ils repartaient aux premières neiges. Au début, ils ne restaient pas, donc ils rentraient chez eux. Puis au fil des années, ils ont fait venir leur famille. Et il y en a certaines qui se sont installées. Alors vous pouvez bien imaginer qu'ils ont été victimes de racisme, ces gens. Et peu à peu, avec l'installation définitive, l'intégration en allant à l'église, au sport, à l'école, le racisme s'est estompé. Mais enfin, il y avait quand même encore, il n'y a pas si longtemps, des gens qui ne voyaient pas d'un bon oeil que leur fille se marie avec un Italien, on en a rencontré. Alors je vous l'ai dit, la forêt des Coulmes et des Écouges, elle avait été vraiment mutilée par la métallurgie et puis les usages des communautés. Il y avait de moins en moins de bois. Alors l'État, il a entrepris des grands reboisements à la fin du 19e, début 20e. Et puis il a commencé à faire le projet d'acheter cette forêt. Le reboisement, ça va causer beaucoup d'hostilité des marchands de charbon et des habitants. Et quand la commune de Rancurel, elle va commencer à semer des sapins pour reboiser, et bien, les habitants, ils vont les arracher. Et puis le projet d'achat par l'État de la forêt, il a été retardé par la guerre de 14-18. Après la guerre, ben, y a des gens qui sont revenus, ils étaient miséreux, ils n'avaient plus du tout envie de vendre. Et bien qu'ils aient signé un contrat de vente avant la guerre, ben, ils l'ont fait annuler. Puis il y en a d'autres qui étaient morts à la guerre. Et d'autres encore qui ont mené la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'ils ont bien voulu vendre leur terrain, mais ils ont tout brûlé avant de le vendre. Ou alors ils ont coupé tout le bois. Et finalement, la forêt, elle a fini par devenir domaniale et par être reboisée. Et puis en 1930, c'était de nouveau la crise. Il y avait énormément de chômage, alors l'État, il s'est mis à employer massivement des ouvriers pour ouvrir des routes. C'était un travail vraiment très pénible, qui se faisait à coups de pioche et de mine. Il n'y avait rien d'autre. Et c'est comme ça que la route qui va du col de Romeillère au Mont-Noir, elle a été construite. La route... Vous avez sans doute pris pour venir ici. Pendant la guerre, on a de nouveau eu besoin du charbon parce qu'on manquait de combustible. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis dans les années 50-60, eh ben, les temps ont changé. Et le mode de vie séculaire qui était celui des coulmes et plus largement de la petite paysannerie, il était devenu complètement obsolète et dévalorisé aussi. Alors ça fait que les familles de charbonniers, elles ont abandonné leur métier, mais ça a été plutôt douloureux. Et dans les coulmes, les familles Mosselin et Benacchio, elles ont cuit du charbon jusqu'au début des années 60. Et les derniers besoins en charbon de l'industrie, ils seront comblés par les travailleurs du pourtour méditerranéen, donc des Italiens du Sud cette fois, des Turcs et des Maghrébins. Voilà, et je referai la suite tout à l'heure où je vous parlerai de ce qui s'est passé pendant la guerre dans les coulmes. Et en attendant, je crois qu'il y a des gens qui ont des... Il y a d'autres gens qui ont des champs à partager.
Je peux en faire un d'en bas, si tu veux, là. La vallée, quoi.
Ouais, super. Ouais. Tu l'as connu comment, ce champ, toi?
Je l'ai trouvé auprès de Germaine Penin, qui habite à Notre-Dame-de-Lauziers. J'ai trouvé les paroles, et puis la mélodie, je l'ai trouvée auprès de Sarlou, qui sont à Pêche, un groupe folklorique. Et a priori, c'est une chanson qui vient de... Il y a deux versions, il y en a une de Murinet et de La Rivière. Alors, je fais une des deux. Voilà. Okay. De bon matin, je me suis levée. De bon matin, je me suis levée. À la rosée, du joli mois de mai, du joli mois béni qui nous baignera.
Avant les années noires. Donc les années noires, c'est 36 à 45. Dans ces années-là, les forêts, elles ont été un vrai refuge pour une foule de personnes qui sont venues vivre dans les chantiers installés dans les bois. Il y a eu d'abord les réfugiés espagnols antifascistes qui sont arrivés dès 36 dans le Royan. Puis il y a eu les chantiers de jeunesse. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de ça, les chantiers de jeunesse. C'est sous le régime de Vichy. Comme on ne pouvait pas faire le service militaire, ben voilà, on envoyait les... parce qu'on n'avait pas le droit, évidemment, de s'armer, quoi, de savoir faire la guerre. Donc, on envoyait les jeunes plutôt dans les chantiers forestiers, agricoles, pour former la jeunesse. Et ça donnait beaucoup, beaucoup de résistants, bizarrement. Et voilà, il y avait aussi dans ces forêts qui se réfugiaient là, ben, les réfractaires au STO, les travailleurs étrangers, les maquisards... qui se retrouvaient donc dans les chantiers de coupe de bois, les exploitations agricoles et aussi le charbonnage. Et ce travail dans la forêt, il est devenu une véritable couverture pour clandestins. Alors au bout d'un moment, ça a commencé à se savoir, si bien qu'une partie d'entre eux s'est enfuie et l'autre partie est entrée en résistance. À Maléval, en 1943, il y avait un groupe de francs-tireurs partisans. En janvier 44, les Allemands ont commencé à monter vers Maleval. Les habitants, ils ont été prévenus un peu au dernier moment et il y avait quelques maquisards avec eux dans le village. Et il y a quelques habitants et des maquisards qui ont couru pour se réfugier dans la forêt. Mais ils ont été accueillis à l'orée du bois par des mitrailleuses, d'autres soldats allemands qui étaient arrivés par l'autre côté, par le col de Romeyère, et qui avaient bloqué tous les accès. Ce jour-là, le village de Maleval, il a été incendié et les civils massacrés. Et puis à Romans, il y avait Paul Janssen. Paul Janssen, c'était le directeur de la Maison des Jeunes. Et il organisait des camps d'été dans le Vercors. Et puis petit à petit, avec l'accord des familles, la plupart des jeunes qu'il emmenait comme ça en camp d'été, ils sont entrés en résistance. Et leur point de chute, c'était à Presles, dans la forêt des Coulmes. On reparlera d'eux tout à l'heure. En tout cas, il y a pas mal de témoignages qui disent que pendant la guerre, l'aide des charbonniers et des paysans alentours, elle a été bien précieuse pour nourrir les maquisards ou pour offrir l'hospitalité. Il y avait une compagnie de maquisards comme ça qui était sous les ordres du commandant Philippe et ils avaient leur QG à l'école de Rancurel. Le jour où les Allemands ont pris le hameau de la Pétouse d'assaut, leur chef il a été fait prisonnier et les hommes ils sont dispersés dans la forêt. Ils ont été aidés par le garde forestier pour ça. Mais il y en a certains qui ont été pourchassés par les Allemands. Alors, pour leur échapper, ils ont grimpé dans les hêtres, qui étaient bien feuillus à cette saison. Mais ils sont restés jusqu'à l'épuisement, jusqu'à tomber évanouis sur le sol. Ils ont été secourus par des paysans du coin à leurs risques et périls. Puis il y avait un autre groupe de Romans qui s'appelait le groupe Abel. Et eux, ils ont été dans la forêt des Coulmes à partir de fin juillet 44, donc plutôt à la fin, au moment où ça chauffait bien. Et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés complètement exténués, affamés, et puis ils avaient du matériel très lourd à porter, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient de l'herbe, des racines et des feuilles des arbres. Et au bout d'un moment, comme c'est pas très nourrissant, ils ont commencé à avoir des hallucinations. Et voilà, il y a Raymond Tonneau comme ça qui raconte qu'avec les reflets de la lune, ils voyaient d'inquiétantes créatures apparaître, que tout tronc d'arbre coupé devenait un être menaçant, tout bruit de branche devenait suspect et qu'ils étaient terrifiés. Puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils tournaient en rond dans la forêt, qu'ils étaient complètement perdus. Et finalement, ils se sont débarrassés de leur matériel sous un rocher. Ils l'ont caché là et ils se sont réfugiés dans une cabane de bûcherons ou de charbonniers. Ils ont fini par sortir de la forêt le 29 juillet. Mais les Allemands, ils les attendaient à Maleval. Ils ont tous été tués. Sauf ce Raymond Tonneau, qui a écrit un livre pour témoigner, qui s'appelle « Vercors, pays de la liberté ». Les fermes des Coulmes, elles ont été incendiées en août, parce qu'elles étaient suspectées d'avoir aidé les terroristes. Oui, puisqu'on les a... Les terroristes, c'était déjà bien pratique à l'époque. Et donc, les maquisards, ils tiraient pas. Ils voyaient, ils étaient sous le couvert de la forêt, ils voyaient les Allemands qui étaient en train d'incendier les fermes les unes après les autres, et ils pouvaient pas tirer. Parce que les Allemands, ils avaient prévenu que pour un Allemand tué, il y aurait 10 civils massacrés. Et on revient au groupe de la Maison des Jeunes, à Romans. Un de ces jeunes-là, il s'appelait Jean Chaput. Et lui, il était planqué dans une maisonnette en bord de route. Et son job, c'était de faire la liaison entre la vallée et ceux qui étaient cachés dans la forêt. De voir qui passait, de contrôler un peu ce qui se passait, de passer les informations. Puis un jour, il voit passer un certain monsieur Chemin. Ce monsieur Chemin, il travaillait dans les contreforts des Coulmes, au-dessus de Saint-Pierre. Il était charbonnier, puis alors ça se voyait qu'il était charbonnier, parce qu'il avait toujours le visage noir. Et il avait une blouse grise avec un béret. Ils ont discuté comme ça, et puis évidemment, Jean, dont c'était le travail, il lui a demandé ce qu'il faisait là. Et le charbonnier lui a expliqué son travail et puis il lui a dit que si jamais il avait besoin, lui, il pouvait le conduire au village. Alors Jean, il a réfléchi un peu, il a demandé l'avis à son chef et puis le chef, il a dit oui, vas-y au village parce qu'en fait, nous, on a besoin d'informations. À ce moment-là, il savait qu'il y avait un canon qui était braqué sur le Vercors et que les Allemands étaient au village, mais ils avaient besoin d'un peu plus d'informations pour savoir s'ils pouvaient s'échapper. Alors quand Chemin est revenu trouver Jean, il lui a dit « D'accord, emmène-moi au village. » Mais il n'est pas allé comme ça avec ses habits de maquisard. Mais ce monsieur Chemin, il l'a habillé en charbonnier, comme lui. Il lui a mis la blouse grise, le béret, il lui a sans doute merci un peu le visage. Et ensemble, ils sont allés au bistrot du village où il y avait des Allemands. Et puis là, mine de rien, ils ont discuté comme ça. Et ils ont obtenu des informations, savoir où étaient les Allemands, combien ils étaient, et puis un tas d'autres choses. Et c'est là qu'ils ont compris que les Allemands, ils étaient là pour boucler le Vercors. Ils l'avaient vraiment encerclé, mais qu'ils ne prendraient pas le risque de monter sur les plateaux. Sur le plateau. Alors, ils sont restés dans le bois un moment. Et puis, ils ont fini par s'échapper avec des camions qui sont venus les chercher de Romans le 10 août. Et ils ont tous survécu.
Alors, c'est pour rebondir avec l'histoire des poules et du curé. Ouais. C'est une histoire de poules et de curé.
Ça commence bien.
Thank you.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu des histoires de loups dans les coulmes? Ah, voilà. Super. Mais au 15e siècle, apparemment, il y avait vraiment beaucoup de loups dans les coulmes. Et il y a plusieurs petits bergers, des enfants, qui en ont été victimes. On en trouve des traces dans les registres paroissiaux d'enfants de 7 ans ou 10 ans qui se sont fait manger par les loups. Après la Révolution, les paysans ont acquéri le droit de porter des armes, de tendre des pièges et de détruire ces animaux qu'on appelait nuisibles. Mais savez-vous que les habitants des coulmes, on les appelait et on les appelle encore des fois les brûleurs de loups? Des gens qui ont entendu ça?
Ouais.
Et tu sais pourquoi? Non, tu sais pas?
Ouais, je sais pas. Ouais.
Eh ben, parce qu'on disait qu'ils allumaient des incendies dans la forêt pour brûler les loups. Et d'où le nom du Mont Noir. Mais on ne sait pas vraiment si c'est une légende ou si c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'on allumait des feux près des troupeaux pour éloigner les loups, mais aussi les ours. Et en tout cas, et donc c'est possible que les gens d'en bas, quand ils voyaient un feu allumé, ils s'imaginent qu'il y avait un incendie, quoi. On ne sait pas si vraiment il y a eu des incendies pour tuer des loups. En tout cas, aujourd'hui, l'expression « brûleur de loups » elle sert surtout à désigner le courage des habitants des coulmes. Et puis ce charbon qu'on descendait de la montagne, ben, on le descendait en général soit à dos d'homme, soit avec des ânes ou des mulets, en caravane. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'entre Maléval et Rancurel, il y a le pas de l'âne. Et jusqu'au milieu du 19e, pour se défendre des loups, eh ben, le dernier mulet de la caravane, on lui attachait un tablier en cuir sur son arrière-train. Comme ça, s'il se faisait mordre, ça ne le blessait pas. En général, c'était le dernier qui prenait. Puis à ce tablier de cuir, on attachait un anneau. Et à l'anneau, on attachait un fagot de buis qui s'agitait de droite et de gauche comme ça quand l'âne marchait. Et ça, apparemment, ça effrayait les loups. Mais nous, on a entendu pas mal d'histoires aussi de gens qui allaient à la veillée en traînant des chaînes, soit derrière la charrette, soit derrière eux, traîner des chaînes pour effrayer les loups. Et puis pas mal d'histoires d'enfants aussi, qui faisaient souvent des longs trajets à pied pour aller à l'école. Et quand l'hiver était rude et que les loups n'avaient pas grand-chose à manger, et ben, souvent il y avait des meutes de loups qui suivaient les enfants. Il y a comme ça un témoignage qu'on nous a partagé d'un enfant dans les années 1920. À cette époque-là, apparemment, c'était assez courant qu'il y ait des grands parapluies rouges. Et donc, ben, ils allaient en bande à l'école, les enfants, marchaient plusieurs kilomètres. Ils étaient souvent suivis par des meutes de loups. Et un jour, ce petit garçon qui avait 5-6 ans, il était là avec son grand parapluie, avec ses copains-copines, en allant à l'école, dans le chemin qui était tout creusé, parce qu'il y avait des congères de neige de chaque côté. Et là, il y a un loup qui est arrivé face à eux, qui était vraiment menaçant. Et ce tout petit bonhomme de 5-6 ans, il s'est avancé tout seul devant le loup avec son parapluie et pouf, il a ouvert le parapluie et ça a fait fuir le loup. Et il y a évidemment des légendes aussi, des histoires de loups-garous. À Villard-de-Lans, comme ça, il y avait un habitant qui était accusé à son insu d'être un loup-garou, se transformer la nuit et de dévorer les chiens. Et en effet, il y avait des chiens qui disparaissaient et on retrouvait des restes que le loup avait laissés. Alors les villageois, ils sont organisés comme ça, sans jamais en parler au principal intéressé, évidemment. Et puis, nuit de décembre, un homme et son fils, ils ont été désignés pour monter la garde. Donc le père avec son fusil, le fils avec son sabre. Et pour délivrer leur voisin de ce sort qui le faisait loup-garou, pour qu'il retrouve à jamais sa forme humaine, il fallait le blesser, mais surtout pas le tuer. Sinon, s'il tuait le loup-garou, il tuait le voisin, en fait. Alors ils guettaient là, dans la vallée, dans la nuit, là où ils avaient vu les empreintes du loup. Et tout à coup, le loup est apparu au clair de lune. Le père, il a tiré et l'animal, il s'est effondré, mort. Immédiatement, le père et le fils, ils ont paniqué. Ils se sont dit qu'ils venaient tuer leur voisin, qu'ils allaient avoir des ennuis avec la justice. Ils ont lesté le corps du loup et ils l'ont balancé dans le torrent. Ils sont rentrés chez eux où personne ne dormait. Tout le monde attendait de savoir comment ça s'était passé. Et là, ils ont raconté qu'ils venaient de commettre un meurtre. Le lendemain matin, en première lueur du jour, tous les voisins étaient là aux nouvelles pour savoir ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Et eux, ben, tout penauds, ils ont avoué leur crime. Alors tout le monde s'est mis en route pour aller saluer la veuve, qu'ils ont trouvée attablée au petit déjeuner avec son homme qui mangeait de bon appétit. Et c'est comme ça que cet homme a appris la rumeur qui courait sur lui et qu'il a pu du même coup la démentir. Puis il y a pas mal d'histoires d'ours aussi. Est-ce que vous avez entendu des histoires d'ours dans le Vercors? Le dernier ours. Vous savez peut-être ça. Ouais. Herbouilly, 1937. Mais bon, il y a un gars qui dit qu'il en a vu en 1956, alors on ne sait pas vraiment si c'était le dernier. Il y en a eu plusieurs, les derniers ours.
C'est pas de survenir encore ça.
En tout cas, il y a une légende qui raconte que dans les coulmes, il y a un gros rocher un peu plat qui fait comme un espèce de banc. Et que les humains, ils aimaient bien venir s'asseoir sur ce banc. C'était un endroit vraiment paisible. Il n'y avait pas que les humains qui aimaient bien venir s'asseoir sur ce banc. Il y avait aussi les ours. Et on raconte que dans cet endroit-là, eh bien, les hommes n'attaquaient pas les ours et les ours n'attaquaient pas les hommes. Et ils pouvaient être assis côte à côte sur ce qu'on a appelé le banc de l'ours. Bon, je pourrais vous en raconter d'autres, mais on va pas trop durer. Vous avez peut-être faim.
Alors moi, je vais vous parler un peu du rigodon. Donc le rigodon. Carole l'a dit au début, pour ce spectacle sur le Vercors, on va beaucoup rencontrer des gens, on fait des collectages. Et plutôt de gens âgés, donc des gens qui ont autour de 80, parfois 80, 90 ans. Et moi, une des questions que j'avais, c'était de savoir s'il y avait des balles, quel type d'événement, et puis qu'est-ce qu'on jouait dans les balles. Donc au début, je m'attendais, peut-être qu'il y aura du rigodon, on ne sait jamais. Et alors, c'était plutôt Java, Paso Doble, Marche. Il n'y avait plus de rigodon. Alors on s'est un peu renseigné et il y a eu plusieurs ouvrages écrits dessus. En fait, le rigodon, il est associé maintenant au Vercors. Il a même été parfois un peu présenté comme une création du Vercors. Bon, en fait, on s'aperçoit qu'un siècle avant, il était déjà dans le sud-ouest, dans différents endroits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il est venu ici, ramené par les travailleurs qui descendaient et qui remontaient ensuite dans le Vercors, il y a eu un énorme succès. Il y a un écrivain justement qui a travaillé dessus, Jean-Michel Guilcher, qui dit ça, qui dit qu'il n'y a aucune circonstance qui lui soit spécifique ou réservée, mais aucune dont il soit absent. C'était une danse très populaire.
Et rigodon, ça veut dire réjouis-toi en patois.
C'est une danse assez physique, et il y avait quasiment un rigodon par village. Aujourd'hui, on les classe comme ça, le rigodon de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit. Et donc c'est une danse un peu particulière par rapport aux autres danses populaires et en tout cas ici paysannes, parce que ce qui fait danser, c'est pas les gens, par exemple les rondes, les gens qui dansent sont également les gens qui animent la danse. Et là, c'est quelqu'un d'extérieur. Et ça pouvait être soit un instrumentiste, plutôt seul, donc souvent un violoneux, soit, et ça c'était intéressant,
soit un trompette.
Il y avait aussi sûrement des trompettes, mais il y avait des charmeleurs et des charmeleuses. C'était le nom qu'on donnait aux chanteurs-chanteuses qui animaient, qui faisaient un bal à la voix. On disait à son de gueule. On disait que le charmeleur-charmeleuse, elle touchait. Toucher, c'était animer un bal à la voix. Et donc, il fallait qu'il ait un bon coup de langue. Et si on chantait à deux, il fallait le même coup de langue. C'était assez... pas mal de discipline. Et pourquoi? C'est parce que souvent, le chanteur commençait un air. Les gens écoutaient, c'est « Ah, je reconnais ça ». Après, il improvisait en faisant le tira-la-la-la, donc sur des la-la-la, des lé-lé-lé. Il en chantait un autre, il continuait comme ça. Et puis au bout d'un moment, les gens se mettaient donc en quadrille ou de différentes façons et commençaient à danser. Et donc nous, des rigodons, en fait, on a appris qu'ils ont disparu après 14-18. En fait, il y a eu une coupure avec les morts, mais aussi parce que les gens du coup, sont plus sortis et ont été au contact d'autres musiques. Et du coup, il y a eu un effet un peu, le rigodon s'est un peu passé de mode. Mais il a quand même été entretenu, alors soit par des gens chez eux, notamment les violoneux qui ont été collectés ensuite par Patrick Mazelier et par Charles Joysten. Donc il y a des sons qui existent de ça. Et puis par des groupes, les groupes folkloriques qui ont quand même entretenu une certaine mémoire, qui sont partis voir les vieux. Donc on pense à la Picouline, à Villard-de-Lans, mais à plein d'autres groupes et d'ensembles. Et alors nous, moi je vais vous en jouer deux. Un qui vient du Marguerite Gauthier-Villard, donc la dame qui a fait des collectages à Villard-de-Lans. Et puis après, je vais en jouer un autre d'Émile Escal, qui était donc violoneux. C'est de Marguerite Gauthier-Villard. C'était un petit air très simple. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on les joue comme ça, tout à fait régulier dans le tempo. Mais il y en a d'autres, dont le prochain que je vais vous jouer, où les violoneux disent parfois qu'en fait, ils jouaient en fonction des pas des danseurs. Et du coup, les parties même du morceau ne sont pas tout à fait régulières. Donc celui-là, c'est le Rigaudon du Val-Gaudemar.
Ça avance doucement vers la fin et avant de terminer, on va parler de quelque chose qui m'intéresse pas mal, moi, qui est tout ce qui est autour de la sorcellerie, mais plus largement des croyances dans le Vercors. Alors dans le Vercors, bon, comme ailleurs, hein, on expliquait pas mal de choses avec la sorcellerie, c'était assez pratique. Et comme le loup-garou, on était souvent désigné sorcier ou sorcière à son insu, hein, se revendiquait pas sorcier ou sorcière. Il suffisait qu'on soit un peu trop seul, un peu trop à l'écart ou qu'on connaisse un peu trop les plantes. Il y avait un fameux sorcier à Méaudre qui vivait à l'écart du village et qui connaissait bien les plantes. Lui, évidemment, il ne se disait pas sorcier, mais quand les bêtes elles étaient malades, on expliquait toujours ça par un sort et on lui apportait et lui, il les soignait. Il y avait notamment une plante, c'est l'élémorphétide, les clous de feu. On faisait une croix comme ça sur la peau de la bête, on appliquait cette plante et apparemment c'était assez efficace. Et donc, il avait beau soigner les bêtes et rendre service, ben, dès qu'il y avait un problème, c'était quand même toujours lui le coupable, quoi. On disait toujours que c'était de sa faute. À l'époque, il y avait des sorciers et des sorcières qui savaient se transformer en corbeaux, en mouches, ce qui était très pratique pour rentrer par les trous des serrures. On raconte qu'à Méaudre, il faisait ça. En chat noir, en cheval. Et comme le loup-garou, quand on tuait l'apparition, et ben, on tuait le sorcier. Parfois, il y avait des gens qui rentraient de la messe et puis qui retrouvaient leur vache sur le toit de l'étable ou pendue au plafond. Et alors là, on savait que c'était de la physique. De la physique, c'est de la sorcellerie. Puis, il y avait des gens qui voyaient des choses que les autres ne voyaient pas. Alors, ils ne s'en vantaient pas trop, mais enfin, ils l'ont quand même assez dit pour que ça vienne jusqu'à nous. Un tel était toujours précédé d'un brouillard. Un autre était suivi par un oiseau, par une bête noire, où qu'il aille. Un autre encore voyait du feu dans les écuries la nuit et n'osait plus sortir de chez lui. À cette époque, la nature, elle était encore habitée par les esprits et parfois, on rencontrait le diable ou les fées. On racontait que si on revenait à pied de Grenoble, dans la nuit, on rencontrait à la Croix-Servanier deux demoiselles, tous de blanc vêtues, qui vous prenaient chacune un bras et qui vous entraînaient prestement dans les bois pour une promenade forcée, comme ça, qui pouvait durer la nuit entière. Le seul moyen de s'en dégager, c'était d'arriver à libérer un bras et de faire le signe de croix. Alors là, vous étiez libéré. Sinon, eh ben, il fallait marcher prestement comme ça avec elle. Et puis, aux premières lueurs du jour, elle s'évanouissait. On disait aussi que si on passait à minuit devant le vieux château médiéval de Rancurel, on rencontrait un homme sur un cheval blanc et que c'était le diable. Donc, il ne fallait pas trop s'attarder par là. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire du rocher arrêté par la Vierge au-dessus de la falaise de la Rochette ? Personne connaît ça ? Au-dessus de la falaise de la Rochette, il y a un gros rocher. Un jour, il est tombé, il a écrabouillé une ferme et ses habitants. Et il aurait écrasé tout le village qui est en dessous si la Vierge, une fée, allez savoir, n'avait pas arrêté le rocher avec ses mains et on peut encore voir l'empreinte de ses doigts dans la roche. Et puis pas loin aussi, dans la grotte de Praletan, on racontait qu'il y avait des fées qui vivaient là. Et que la nuit, elle se rendait à la Goulandière, chez les Arnaud. Là, elle sortait les brebis de l'écurie pour les mener paître. Et le matin, elle les ramenait. Et quand les gens de la ferme voulaient sortir les brebis, le matin venu, vous avez plus du tout faim, ces brebis. Et pourtant, elles se portaient bien. Alors au début, ils ne comprenaient pas. Puis petit à petit, ils ont fini par découvrir la chose. Et pour récompenser les fées, qu'on appelait les failles, en patois, pour récompenser les fées, ils ont accroché une robe à l'entrée de la grotte. Alors les fées, elles ont emporté la robe qui visiblement leur a plu, mais à partir de ce jour-là, elles sont plus jamais revenues s'occuper des brebis. Et puis pas loin là, il y a le Pas du Follet, il y a des gens qui connaissent le Pas du Follet, ouais. Entre Rancurel et Maléval. Donc il y avait beaucoup de circulation par ce pas entre Rancurel et Maléval parce que les habitants se rendaient souvent visite. D'ailleurs il y avait régulièrement des mariages entre des gens de Rancurel, des gens de Maléval. Et l'hiver, pendant les veillées, ils partaient dans la nuit comme ça, veiller chez les uns, chez les autres, danser, jouer de la musique. Et ils rentraient très très tard, faire des kilomètres et des kilomètres à pied. Et donc, ils passaient par le Pas du Follet. Et la nuit, quand ils passaient là, ils voyaient un feu qui courait sur le rocher qu'on appelait le Follet. Le Follet, c'était aussi le nom d'un esprit domestique qui jouait des tours, un peu comme les lutins, quoi. Et on disait que les femmes enceintes, elles ne devaient surtout pas passer par là parce que si elles voyaient le Follet, et ben leur enfant, il serait marqué pour toujours et il aurait un don. Là, on racontait ça à Rancurel. Et puis, entre le hameau du Charmeil et Presles, il y avait un très gros être qu'on appelait le Gros Fa, donc le Gros Faillard. Et on disait que cet endroit, il était hanté par des revenants qui faisaient des bruits de chaînes la nuit. Alors les gens avaient peur d'y passer la nuit. Voilà, il y a pas mal d'autres histoires de fées. Ah oui, le sorcier de Méaudre, ou d'Autran. Non, je crois que c'était le sorcier d'Autran, oui. Qui avait une recette infaillible pour faire venir la pluie. Alors dans les temps qui courent, je vous la transmets, on ne sait jamais. Donc ce sorcier d'Autran, quand il fallait faire venir la pluie, il allait au lac du Gros Martel. Mais alors il fallait que personne le suive et que personne regarde ce qu'il faisait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il se mettait dans l'eau et qu'il tournait avec des branches. Et qu'au bout d'un moment, ça formait un tourbillon, une nuée dans les airs et la pluie tombait. Et bien on va terminer avec des chants.
Tout à fait.
Alors on en a encore deux, toujours de cette fameuse Marguerite Gauthier-Villars qui nous rend bien service. Le premier, c'est un chant d'infanticide. Nous, en fait, on a beaucoup. Ouais, ça fait toujours réagir. Dans le répertoire de la chanson populaire, il y a beaucoup de chants d'infanticide. Parce qu'en fait, ces chants, ils racontent la vie des gens. Hein, et l'infanticide, ça faisait partie de la vie des femmes. Voilà, voilà donc un infanticide villardien.
Villardien.
Alors souvent, le dernier couplet est très moralisateur, donc on l'enlève. On l'a squeezé. Nous sommes cinq enfants d'un père et d'une mère. Nous sommes cinq enfants d'un père et d'une mère. Il y en a trois pour travailler. Et un qui va en champ et moi qui reste à la maison. Je reste à la maison cause que j'en suis belle. Je reste à la maison cause que j'en suis belle. Un jour me prit l'envie de m'aller promener ma coloniette à mon côté. Je me suis promenée alentour de la ville. Je me suis promenée alentour de la ville. Me vint une pensée à moi défigurée que j'étais prête à accoucher. Je m'en suis retournée au château de mon père. Je m'en suis retournée au château de mon père. Trouvais mon père à table, à
table qui déjeunait, moi je suis prête à accoucher. Je me suis approchée de cette table ronde. Je me suis approchée de cette table ronde. Point de semblant, je fis un doigt de pain, je pris dans ma tachette, je le mis. Je me suis en allée au jardin de mon père. Au milieu du jardin, il y a une rivière. Mon cœur descend en bas, mon enfant dans les bras, dans la rivière, je le mis. La dame du château qui est à sa fenêtre, elle se mit à crier, que faites-vous, la belle? J'ai fait péché mortel de mon enfant, je l'ai noyé, personne ne peut cacher. La dame du château avertit la justice. La dame du château avertit la justice. La justice revient, les causes en sont données, voilà la belle justifiée.
On va terminer avec une un peu plus gaie.
Vous pouvez participer, d'ailleurs.
Et juste une petite précision de vocabulaire, parce que souvent les gens ne comprennent pas bien certaines choses dans les chants populaires, et notamment ce « j'ai fait l'amour ». Quand dans un chant populaire on dit « j'ai fait l'amour », ça veut dire « j'ai fait la cour ». Voilà, il n'y a pas consommation.
Est-ce qu'on apprend vivons toujours?
Ouais, c'est cool.
Alors Carole va faire... J'aime le vin. Et nous,
buvons toujours. Vive l'amour.
À vous.
Et buvons toujours. Vive l'amour.
Et là, c'est parti.
Tous pour
merci à vous. Merci. Merci. Merci.